Donc, enchantée. Qui parmi vous est déjà allé au CCC, à Berlin, à Leibniz ou à Hanovre? Pas encore? Bon, en tout cas, je vous conseille vivement parce qu'entre les workshops et les conférences, les échanges régulièrement engagés, comme on va le voir à travers tous les extraits de conférences que je vais vous passer en revue, mais de façon thématique, que ce soit résilience, sécurité, hardware. Voilà, on va juste passer en transversal les thématiques du CCC. Donc je me présente d'abord parce que quand je suis à la fin et les gens s'en vont, ils n'ont plus la référence contact mail. Donc sur l'affiche, il y a marqué Valérie Dagrin. Je suis connue dans le milieu du hacking depuis 15 ans à la Quadrature du Net. Alors c'était 2007, mais j'étais déjà dans la communauté du logiciel libre avant. Si vous me cherchez, c'est Vanda. Voilà, donc dans la vie, je suis ingénieure en intelligence économique. Je suis consultante cyber junior en forensique. Junior, on s'arrête là. Voilà, je suis junior. Voilà, donc j'ai travaillé sur les données personnelles. J'ai remplacé Jérémy Zimmermann de la Quadrature à l'université à Paris pour des cours. J'ai travaillé dans une entreprise open source. Je suis cofondatrice d'un hackerspace en Bretagne. Voilà, donc je suis dans la communauté du logiciel libre depuis, comme je vous ai dit, plusieurs années, à différents statuts aussi sur des conseils d'administration, notamment au Canada. J'ai donné des conférences sur l'affaire Snowden. Et pour finir, pour faire un petit peu le lien entre le hackerspace ici et les Fab Labs, parce que j'ai des publics ici dans les couloirs qui sont Fab Labs Irtilec de Toulouse, je fais également des publications dont je fais de l'information descendante. Je viens ici aujourd'hui pour ça. Donc pourquoi cette conférence? C'est pour apporter ma contribution à l'édifice. C'est-à-dire que chaque chercheur est dans son labo ou des personnes analysent du code, mais souvent ces publications sont clairsemées, sont en allemand ou en anglais. Je suis la seule journaliste européenne, donc je suis la seule journaliste française à avoir pris cette initiative depuis 4 ans. Ça veut dire que concrètement, sur le site que je vais vous montrer, qui est dans le deuxième onglet, ce sera le seul site de référence sur lequel vous pouvez retrouver l'intégralité des résumés des conférences. Donc c'est juste les résumés avec les sources des conférenciers. Je n'ai pas la prétention de connaître toutes les sciences, mais à chaque fois c'est leur résumé plus leurs sources de recherche sur GitHub également et les moyens de rejouer certains logiciels ou simulations, parce qu'il y a vraiment des thématiques très variées. Hein. Ça va des sciences du spatial jusqu'à du hardware dans le noyau. Dernier point, donc si je fais ça, c'est pour contribuer, et puis parce que c'est vraiment gratifiant lorsqu'on suit ces conférences. Je suis donc 150 conférences pendant 4 jours. Donc j'en suis 4 en parallèle dans une langue que je ne connais pas, qui est l'allemand. Mais comme c'est sous-titré en anglais, donc c'est un peu hardcore, je vous conseille de le faire, c'est vraiment grisant. On a l'impression de pouvoir changer le monde. Et moi, ma façon à moi de changer le monde, ben, c'était de participer. Bon, allez, c'est pas important, mais je le dis quand même, ça fait 5000 images à traiter. Et ouais, voilà, ça fait 150 conférences sur 4 jours. Donc, décryptage du CCC, si vous n'y êtes pas encore allé. Tout est écrit systématiquement en haut de chaque article. Donc à chaque fois que vous taperez dans un moteur de recherche CCC, soit mon nom, soit l'année, vous tomberez dessus parce que je suis la plus référencée en France, il n'y a personne qui fait ça. Donc la façon de c'est le deuxième temps de la présentation, la façon de décrypter le CCC. Donc c'est chaque année, en fin d'année, entre le 27 et 30 décembre en Allemagne, entre 150 et 200 conférences, dont vous avez les thématiques ici. Sécurité, hardware, éthique, agriculture, science et résilience. Résilience, ça peut être la façon de s'approprier des habitats, la façon de s'intéresser au climat et de voir à multi-échelle comment on peut agir localement. C'est très vaste comme sujet. Donc le CCC a été créé en 1984. Ils sont vraiment très actifs par rapport à ce qui se fait en France. Ils ont une très belle visibilité et légitimité aussi. Ils ont également des personnes qui agissent auprès du gouvernement pour les droits d'auteur, par rapport à ce qui s'est passé avec pas Cambridge Analytica, mais c'est des chevaux de Troie pour faire pousser des projets de loi, pour le RGPD, pour tout ce qui est sujet de surveillance. Et finalement, ces thématiques, lorsqu'ils font des conférences, on se rend compte que c'est les mêmes thématiques dans tous les pays, notamment européens. Dans des pays comme la Chine, avec des observatoires tels que Ouni. Est-ce que vous connaissez Ouni? Non, ça fait partie des sites que je voulais vous montrer. C'est des observatoires d'interférence par rapport à la censure sur Internet. Donc si moi je suis ici, c'est parce qu'il y a la partie technique, mais il y a la partie géopolitique aussi qui est intéressante. Et ces conférences sont au carrefour de tout ça. On a des experts qui vont identifier qu'il y a des attaques sur des réseaux à différents niveaux. Et de l'autre côté, des associations, des hackerspaces qui vont aider lorsque le réseau tombe, lorsque par exemple il y a des sauvetages en mer à faire. Depuis 2 ans, il y a beaucoup de conférences sur les sauvetages en Méditerranée. Comment on va aider ? Ou alors, il y en a une, et là, je vous le témoigne, ça m'a assez émue. Pendant qu'il y a eu Ebola en Afrique centrale, c'est des hackers qui ont aidé les médecins parce que sans fonds, sans financement, tout était bloqué. C'est eux qui leur ont déployé sur place un réseau téléphonique pour être payés, et ça a participé à endiguer Ebola. Il n'y a aucune presse qui l'a présenté comme ça. Tout comme il y a des hackers qui avaient aidé lorsque Bachar el-Assad avait coupé Internet. C'est des hackers qui ont aidé la société civile afin qu'ils n'aillent pas sur certains réseaux sociaux et pas se faire attraper. Donc, pour revenir sur cette petite... ce n'est pas une introduction, c'est à chaque fois la synthèse pour s'y retrouver. Parce que si on va sur le site lui-même, il a beau être en anglais, il est compliqué à naviguer pour retrouver où sont les ressources. Donc, si j'ai fait tout ça, c'est que là, vous savez où sont les conférences. Les gens se connectent dessus, ils savent tout de suite où c'est. Et voilà, à chaque fois, chaque année, c'est comme ça, hein, les conférences. J'essaie d'attraper le machin en bas. J'y arrive pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais c'est pas important. C'est juste pour vous montrer que cette échelle d'information est très utile quand on est sur place et puis tout est décliné. On peut avoir le programme sur son ordinateur portable. Là, je vous fais une présentation de forme, hein. Mais c'est important parce qu'il y a tellement d'informations et c'est ça qui fait que c'est complexe. Pendant 4 jours, vous avez ce type de tableau et de conférence, sachant que vous pouvez en suivre qu'une en même temps, voire sur un portable à côté, mais on ne peut faire que ça. Voilà à quoi ça ressemble. Et c'est parce que c'était complexe que j'ai fait ce travail de reconstruction avec l'historique, les thèmes, où on retrouve les documents et surtout les vidéos. Donc je vous invite surtout à retenir une chose, si vous voulez ressortir d'ici avec une information, c'est regarder les vidéos ici. Parce que non seulement c'est la source, mais en plus, comme elles sont post-traitées en termes de son, pas forcément de son et d'image, mais vous avez les sous-titres, parce que parfois ils ne sont pas toujours activés. Donc ça, je vous invite à aller sur ces conférences, parce que elles sont tellement majeures que durant toute l'année, lorsqu'on lit la presse, lorsqu'on apprend les affaires de vote en Russie, annexion de la Crimée, censure de politique avec Trump, le Brexit, j'ai appris, je ne savais même pas que c'était dans la même affaire finalement au niveau écoute, surveillance, le Brexit et les élections européennes, parce que là ils en parlaient en décembre 2018, ils ont dit on va surveiller le trafic et voir ce qui se passe. Donc, tous ces effets d'annonce sont décompilés dans l'année et en termes de veille, on a tous les ingrédients, soit pour s'informer, soit pour agir en fonction de chacun de vos métiers. Si vous voulez en parler, hein, n'hésitez pas si à chaque fois vous oubliez de le dire, si vous voulez dire ben moi je travaille dans tel domaine et ce sujet m'intéresse en particulier. Ensuite, j'ai dû inventer des formats, donc ça c'est le travail que je fais, mais c'est pas le plus important. On va balayer cette année en 2018. Je pensais que vous auriez vos laptops pour aller naviguer dedans. On va naviguer sur une des pages. Donc pour ce qui est de cette année, il y a quelques mois, donc ils ont fait ces thématiques-là. Pour 2018, ils ont traité de l'alliance d'espionnage Australie-Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni. Alors ce que je vais dire ne correspond pas à l'image. Hein. Je vais le faire défiler pour le plaisir de vos yeux. Ils ont également traité de C-Hub, des lieux de publication pour contourner Elsevier et ses tarifs par rapport aux chercheurs. Ils ont publié également un article extraordinaire sur le système chinois de surveillance, parce que dans la presse au quotidien, il n'y a pas nécessaire. Ils vont rediriger vers les sources et des laboratoires de recherche, mais là on a accès en termes de big data. Le projet pilote chinois, c'est 100 millions de personnes à Shenzhen. 100 millions, c'est un tiers de l'Europe en projet pilote. Voilà. Les machines de vote électronique, ça c'est redondant, chaque année il y a des analyses là-dessus. Donc là je lis les titres, ça va défiler à peu près en même temps. Celui-là aussi c'est un très bon dossier, puisque ça avait été annoncé déjà en décembre que la Russie coupé en avril 2018, hein, Telegram. Donc il y a tout un tas de mécanismes de censure en Russie. En Chine, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours à peu près, Wikipédia a été censurée. L'histoire de la transformation de l'infrastructure Internet en Crimée est formidable parce que selon les chercheurs ou selon les intervenants, soit ils vont dire, ben voilà, on a trouvé des vulnérabilités, on a vu ça. Ça peut être une conférence ponctuelle sur un point de ce qu'ils ont vu. Soit ça peut être un processus, c'est-à-dire des années d'analyse. Ils vont voir comment des experts vont s'installer, il y a des appels d'offres un peu bizarres, il y a des documents, ils vont montrer les documents, on voilà, d'appels d'offres avec les gouvernements sur de la téléphonie. Ils vont montrer les tarifs et ils vont montrer sur des graphes comment petit à petit des mécanismes de censure sont légitimés sur place par des ou sous couvert d'entreprises. Il y a également beaucoup de dossiers, comme je vous disais, depuis 2 ans, et ça c'était quelque chose que je voulais vous parler. Qu'est-ce qui se passe cette année par rapport aux années précédentes? C'est que cette année, il y a également encore beaucoup d'articles sur Frontex, c'est-à-dire la politique douanière européenne, des frontières en Europe, et notamment sur les sujets en Méditerranée. Donc il y a des... Je vais le faire défiler à un moment donné, vous allez le voir passer. Alors, il serait où, Frontex? Normalement, soit on l'a passé, soit... Donc ça, c'est Facebook sur Android. Il y a eu une grosse étude où ils ont fait de l'extraction de données. Donc Frontex, il y a tout un tas de collectifs qui s'approprient les outils open source pour pouvoir aider les sauveteurs sur place à détecter les zones où des réfugiés vont fuir la Libye ou vont fuir les côtes nord-africaines pour centrer les zones de recherche. Donc il y a derrière des spécialistes qui vont les soutenir. Il y a également, cette année, c'est nouveau aussi, donc c'est un constat, vous pouvez le regarder en termes de fréquence. Il y a beaucoup de conférences contre le fascisme liées à la montée de l'extrême droite en Europe. On l'a tous constaté. Et là, il y a toute une série de conférences et d'actions en Allemagne, face à l'Autriche aussi. Mais bon, ça y est, là, suite au scandale récent de l'écoute, c'est un sacré dossier, ça aussi. C'est pas tous les jours qu'il y a des dossiers comme ça. Donc je ne sais plus le statut de la personne, mais il a été découvert en train de faire une... c'était des pots de vin dans une baraque, là, un truc comme ça. Donc ça en fait un de moins sur la liste. En Russie, la carte à puce. Hein. Cryptojacking, beaucoup. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, Le Monde, donc notre presse nationale la plus connue, a fait un seul article cette année du CCC, c'est sur le piratage de détection des veines. Donc que ce soit de la reconnaissance faciale ou autre, tout est contournable, mais la presse a décidé de ne faire que cet article cette année. Et là, moi, je voulais vous faire un petit peu rêver. J'avais envie, parce que c'est cool de rêver. C'est que depuis l'année dernière, il y a eu carrément dans les thèmes... On va y revenir, tiens, puisqu'on y est. Tac. Sur les thèmes. Il y a eu l'émergence... Alors, c'est pas fondamental cette année, mais voyez, c'est ça que je voulais vous montrer. Parce que les premières années du CCC, c'est de la sécurité. Après, il y a eu de la musique. Après, il y a eu de l'art. Après, il y a eu de la politique. Et depuis 2 ans, il y a le thème du climat qui est venu, qui s'est joint dans la section résilience, notamment suite à l'élection de Trump. Dès qu'il a été élu, les données scientifiques des chercheurs sur le climat ont été migrées immédiatement au Canada pour les protéger. Ça, c'est un fait international. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le CCC, finalement, en termes d'organisation et de conférences, c'est représentatif de nos craintes, des tendances dans le monde, et comment on réagit face à ça. Soit on constate, comme on le voit dans la section Nightmare Security, notamment les thèmes qui reviennent le plus souvent, c'est les IoT et ces sujets-là. Mais comment on réagit face à ce milieu? Comment on s'approprie ces données universitaires? Comment est-ce qu'on recrée des plateformes? Comment est-ce qu'on sauve ces données? Et du coup, le spatial est arrivé en force. Mais quand je dis le spatial, ça peut être des rovers, ça peut être du hardware, ça peut être des navettes, mais ça peut être... si vous aimez ce sujet, depuis l'année dernière, il y a beaucoup de matière là-dessus. Alors, pour le spatial, j'avais noté qu'il y avait un hypercamiocandé. Donc là, je crois que c'est sur les neutrinos. Ensuite, il y avait comment photographier l'espace. Il y a eu quoi d'autre Bon, ça c'est le rover martien, donc Curiosity. Aussi, ah oui, la particule antarctique, donc on va y aller. Allez, c'est parti, en route pour l'aventure. Il est dans le jour 3. Je vais vous les faire défiler pour qu'on reste dans les temps. Je vous ai donné mes coordonnées, vous me les reprenez si vous le voulez. Mais autrement, vous notez juste cette adresse et les vidéos. On va juste les faire défiler. S'il y a vraiment une thématique en particulier qui vous intéresse, on peut s'arrêter dessus. Les notions de vie privée, bon, ben, en fonction du nombre de publics, soit je m'y arrête. Ah oui, les ordinateurs qui décident de l'asile politique. Il y a de plus en plus de conférences, ça y est, qui apparaissent sur ce droit de décision des intelligences artificielles. À quel moment l'individu agit ou pas. Et là, on se rend compte on le sait très bien à travers différentes conférences, qu'il y a eu différents types de discrimination en fonction de où on habite, d'attribution de secteur, d'attribution de logement. Voilà, il y a des tris qui sont faits par les intelligences artificielles et qui sont discriminatoires. Là, c'est pour l'asile politique. L'Union européenne. Moi, j'ai envie de vous montrer OMI. Les maisons intelligentes. Ouais, OCCC. Jailbreaking. Du Zero Day. Allez, on va chercher celui-là. On va chercher les particules en particules. Alors celui-ci, c'est les modèles d'affaires d'Internet avec la neutralité du net. Parfois, il y avait des personnes de la quadrature du net qui faisaient des conférences et qui expliquaient le fonctionnement de l'ANSI français. Ils l'expliquaient aux hackers en Allemagne, donc on avait au moins des représentants. Cette année, je ne les ai pas vus, ils y étaient l'année dernière. Là, c'est Amazon, c'est une étude comme sur Facebook, c'est-à-dire c'est des chercheurs qui ont récupéré des données pour voir comment les données sont traitées par Amazon ou Facebook. Ils ont fait des sacrées découvertes en termes de tracking, évidemment. Alors, moi, je cherche l'Antarctique. Je crois qu'elle est en bas. Alors, ça, c'est la mission du rover. Celle-là, après, il y a des petits témoignages, toujours pareil, c'est des ressentis personnels, mais c'est toujours émouvant. Là, c'est un jeune lycéen qui a appris tout un tas de différents... Enfin, un peu de code et ensuite un peu de hardware. Et ensuite, quand il a fait sa licence en mathématiques, il a décidé de tout faire, son smartphone, de A à Z, de la soudure au tactile. Il a tout fait, donc ça, c'est... Donc, il a mis son téléphone dans une boîte à lunch. Donc, ça, c'est rigolo. Il y a aussi quelque chose... Voilà, c'est ici que je voulais venir, Ça rend pas très bien, chez vous ça passera mieux. Il y a aussi cette année quelque chose de nouveau et je pense que c'est cohérent, c'est dans la transmission des savoirs, c'est-à-dire qu'il y a au moins deux conférences sur ce sujet, c'est comment créer un hackerspace, comment présenter les thématiques, c'est pas évident parce que selon les pays le ressenti n'est pas le même, en Allemagne c'est friendly, en France c'est moyen, les tendances ont changé grâce entre autres au Fab Lab et également au Hackathon, ça a créé un peu plus de capital sympathie on va dire, mais il y a encore 10 ans on a connu des tensions. Ils expliquent aussi comment gérer des projets, la trésorerie, enfin bref, ils expliquent comment ça fonctionne. Et ça, ces sujets-là n'existaient pas les années précédentes. Donc pourquoi ces sujets-là sont intéressants, c'est que à chaque fois, il y a des défis techniques, évidemment. Il n'y a pas toujours de logique de hacking, mais il y a toujours de la rétro-ingénierie. Et comme il y a de la porosité entre les sciences, chaque intervenant explique qu'est-ce que ça a pu changer. Je vais finir sur deux autres sujets pour le timing et les prochains intervenants. Est-ce que le prochain ou la prochaine intervenante est ici dans la salle? Signalez-vous. Non. Les années précédentes, pour vous faire une fois encore cette synthèse sur toutes ces conférences, il y avait également des thématiques sur le génome CRISPR, si vous en avez entendu parler. C'est du séquençage, on pouvait découper, on pouvait recréer tout un tas de briques génétiques. Il y a eu beaucoup de bruit aussi là-dessus. Et c'est ça, d'une science à l'autre, il commence à y avoir des passerelles entre le biohacking et d'autres domaines, en fait. Donc c'est le but. Tout comme dans les Fab Labs où on est actif, il y a des passerelles entre les sciences, ça vous le savez. Mais voyons, des CTF, oui, c'est ça. Il y a eu des... Cette année, c'est nouveau. Il y a des conférences sur comment créer son hackerspace. Et des témoignages sur les CTF, comment organiser des challenges, comment commencer, voilà, des first steps. Voilà. Alors moi je vais vous présenter ONI pour finir, parce que je trouve que c'est un site qui reflète très bien notre culture, et je terminerai sur ce point-là. Non, tu n'es pas une pizza. Ça me permet de découvrir des thématiques, une actualité que je ne pourrais jamais faire, tout un tas de sciences que je ne pourrais jamais aborder. Je fais ce travail de médiation descendante et ça me permet au passage de découvrir ce type de plateforme. Peut-être que vis-à-vis de vos métiers, c'est pas important, mais je dirais que de toutes les conférences, c'est celle-ci sur laquelle je reviens le plus. Et ce que je peux vous dire sur le support, donc par derrière, il y a des hackers qui travaillent à capter du signal. Et de l'autre côté, ils restituent des présentations. Chaque année, normalement, ils font des présentations sur la situation au Tchad, en Iran ou en Syrie. Et à chaque fois, il y a un pattern. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait palpiter. Voilà, il y a un pattern parce que d'un côté, on voit clairement les intentions politiques, les mécanismes qu'ils mettent en place pour clairement emmerder la population. J'assume l'enregistrement. Et ce que ça a d'intéressant, ben, c'est que nous, ça nous fait des contre-mesures parce qu'elles sont captées et on peut agir face à ça. On peut aider les populations locales à contourner, à leur dire où se protéger, qu'ils soient journalistes ou que ce soit des associations dans la santé, dans l'éducation, dans l'information de ce qui se passe localement. Cet outil-là nous permet vraiment concrètement d'anticiper et d'appréhender tout un tas de mesures gouvernementales, hein, faut le dire comme ça. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, mais je vous écoute si vous avez des questions-réponses. Parce que vous pouvez parler entre vous. Hein. Donc si vous voulez, s'il n'y a personne, vous pouvez dire ben, je suis dans tel domaine, hein, vous pouvez parler entre vous. Un outil de vérification des sources. C'est possible. Bah, en fait, on a chacun nos onglets chouchous actualisés avec ça. Je dirais qu'effectivement, il y a des conférences en particulier qui m'ont tapé à l'œil. Et l'année dernière, il y a le gars, c'est le seul que j'ai vu qui a fait ça. Il a monopolisé une université pendant un an et demi avec des étudiants par rapport au phénomène fake news qui existait déjà avant. Mais il a fait un travail fabuleux. On va aller le chercher. De vérification et de check fast, si c'est ça que du fast checking, si c'est ça que tu veux dire. Ah oui, je les publie sur Linux.fr, hein, histoire de. Non, c'est pas ça que je veux. Ouais. Non, mais je lui dis 34. Mais c'est, enfin, si je dois te dire une source, je te dirais que c'est celle-ci qui était là. Oh, l'Internet à Cuba, c'est génial. Tiens, tout à l'heure, je vous ai parlé de comment ils avaient réussi à endiguer Ebola. Ben, cette conférence-ci, ils ont expliqué comment sur place les opérateurs téléphoniques ben, fournissent des prestations très bas débit. Donc les gens, ils se débrouillent avec une clé USB. Donc c'est mignon. Les gamins, ils vont à Hackerspace ou autre. Ils vont chercher des données ou des films pour leur famille. Et ils fonctionnent physiquement. Et à un moment donné, il y a eu une circulaire sanitaire qui a été diffusée par le gouvernement. Sauf que c'était du bas débit. Donc la population n'a pas pu être informée qu'il y avait des moustiques contaminés. Et bien c'est eux qui ont fait du reverse et qui ont informé la population. Donc à la fin de cette conférence, le ton est très joyeux, puis tout d'un coup, boum, accident sanitaire. Et là, finalement, on se rend compte que c'est les citoyens qui ont agi et pas le gouvernement. Mais ouais, mais c'est. Mais du coup, ouais, alors les pompiers. Les pompiers, parlons-en. Ouais. Normalement, c'est le premier. Voilà, c'est celui-ci sur les fake news. Ma référence, c'est lui. Il a fait toute une typologie qui est vraiment géniale. En gros, il montre clairement dans les faux positifs, c'est-à-dire quand tu as des logiciels de détection d'attaque. Il explique qu'en fait, pour savoir si c'est un bot ou c'est un vrai humain, parce que la réalité, c'est que dans les réseaux sociaux et les bulles de désinformation, il y a des vrais humains, des trolls. Et là, ils ont expliqué la typologie de ces personnes. C'est souvent soit des retraités, soit des jeunes, sans stigmatiser, c'est ce qu'ils ont trouvé. Mais après, ils ont surtout pu modéliser comment ça se passait et c'est magnifique. Ils ont analysé 1,6 million de comptes Twitter, 400 millions de tweets et 50 millions d'articles pendant un an. Je connais aucun labo de recherche dans le monde qui a fait ça. Donc c'est représentatif et les cartographies sont géniales. Ça aussi, ça en fait partie. Là, c'est la fameuse analogie que je vous disais tout à l'heure. Ils ont fait une analogie d'infection de l'information classique, mais avec des cellules, parce que dans les faux positifs, ils ne savent pas si c'est une cellule qui va se soigner ou si c'est un parasite, ils ne savent pas. Donc ils ont fait des analogies assez intéressantes. Ça, c'était chouette aussi. Et après, bah, pour finir, le CCC, c'est un lieu de pratique et de démonstration à source ouverte. Ils vont faire les démons sous vos yeux. Est-ce que c'est une prochaine intervention ?
Non, vas-y.
Moi, je tapote en attendant. Je vais vous laisser la parole, je vous écoute. J'espère que je vous ai donné envie d'y aller.
Ou
vous pouvez les regarder au chaud depuis chez vous. Le débit est très confortable. Tu as des questions ?
Je vais m'insérer sur un truc, c'est déjà mon sujet.
Vas-y.
Est-ce que tu veux quitter
Ah, je veux bien. Mais avec des trucs comme ça, on va avoir des conférences pendant 20 ans encore.
Et après, sinon...
Oui. La conf suivante ayant été annulée, tu as un quart d'heure de plus si tu veux.
C'est gentil, mais je vais laisser la parole...
C'est
sophistiqué tes trucs.
Non mais moi là en fait j'ai commencé à m'installer avec une dalle.
D'accord.
Du coup,
je vais faire des allers-retours.
T'as des mugs Pitec. Ah oui, et chaque année, il y a également, depuis que Snowden en 2013, il est passé par Hong Kong et ensuite par la Russie. Chaque année, ils font un état des lieux où ils invitent en temps réel à faire du retour sur comment les personnes qui l'ont hébergé sont traitées, parce qu'il y a la répression en Hong Kong là-dessus. Donc chaque année, il revient. Moi, je vous fais passer les titres. Il y a vraiment des projets très chouettes. J'ai construit les pages comme ça parce qu'il y a différents publics qui le consultent, notamment des Fab Labeurs, qui, on dit comme ça, hein, qui ont besoin d'idées pour des hackathons ou des ateliers, parce que les Arduino et tout ça, ils ont compris, mais ils ont toujours besoin de formateurs, ils ont besoin de gens. Et moi, je suis fière d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de Fab Labeurs que je connais sur Toulouse, ils viennent au THSF chaque année. Il n'y a pas beaucoup de hackers qui vont au Fab Lab, mais j'y travaille. C'était plutôt l'année dernière. Là, j'ai montré l'Arctique, le rover, les muons, le hyper. Un espèce de. Je ne sais pas si c'est celui-là à Tokyo, parce qu'il y en a un autre qui construisent en Russie. Donc, normalement, c'est des énormes bassins d'eau pour capter les neutrinos. Ça, c'est la définition. Mais après, il y a toujours des conséquences derrière. Il y en a un sur le LHC aussi, du CERN. Parce que cette année, ça y est, ils ont enfin réussi une nouvelle étape dans les collisions de particules. Et après, j'ai pas toujours le vocabulaire, hein, il y a plein de sciences là-dedans. Mais comme vous l'avez vu avec la photo sur le trou noir, bon ben voilà, il y a du travail en amont qui est fait. Et à un moment donné, il y a quelque chose de visuel qui va nous parler, une avancée, une preuve tangible. Et là, effectivement, dans le collider du LHC, cette année, ils ont pu prouver encore une nouvelle étape dans les particules. Ça aussi, c'était très impressionnant. Ah oui, c'était en temps réel. Donc, moi, ça m'a beaucoup impressionné. Ça, là. Les lasers et électrons. Oui, c'est ça. Le gars, il a dit, il faut plein d'énergie, mais on peut faire... ils ont besoin de 17 milliards de volts pour faire une photo. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc ça, si vous l'avez en vidéo, c'est très impressionnant. Vous pouvez voir des cellules en temps réel... Magnifique. Électron laser. 2 gigawatts. Voilà, ça c'est des démons en temps réel. Voilà, quand c'est pas de la bière, ben c'est du schnapps.
C'est bon, t'as passé combien de temps à gérer tout ça ?
C'est un temps de travail indécent, parce que tu regardes 4 conférences en même temps. Rien que pour la mise en page, là j'ai passé 14 heures là dessus depuis hier pour faire un peu de mise en page, parce qu'il y a des, même si c'est très organisé, par exemple le THSF ici ils filment ou ils enregistrent les conférences, mais chaque intervenant fournit soit ses slides soit les enregistrements, peuvent mettre du temps à venir. Or ça, je le publie à minuit tous les soirs, c'est-à-dire le soir les 50 conférences de la journée, c'est en ligne, parce que je ne peux pas attendre, donc c'est puissant. Mais après, il y a tout le reste à traiter, toute la communication descendante. Donc comme je ne veux pas parler de moi, c'est pas important, mais le temps de la médiation est important. C'est-à-dire que je suis contente de pouvoir fournir ce travail en France. Et du coup, j'ai eu des demandes, des gens qui m'ont dit, Valérie, est-ce que tu peux le traduire en espagnol, en italien, voilà. J'ai eu des demandes. C'est ouvert. Il y a des années, je mets du temps à dire aux gens, venez, on va travailler sur un wiki. Faites-le dans votre langue. Et ça serait chouette que ce soit fait, parce qu'il n'y a aucune opinion. On est sur des faits. Il n'y a aucune opinion à l'intérieur. C'est factuel. Qui veut prendre la parole ? Yann, as-tu un micro? Là, on est sur le 34C3. On va aller.
Ouais, j'ai raté le début, mais j'ai compris que c'est financé par la mairie de Brest.
Alors, là, ça n'est absolument pas financé, c'est bénévole, hein, tout est bénévole. Je publie sur ce site parce que je suis administrative depuis le sommet mondial de la société de l'information. C'est pour le détail et pour la source. Mais ensuite, quoi qu'il arrive, ça, je l'envoie sur Linux FR. C'est le deuxième relais. Et après, comme c'est en Creative Commons, c'est redistribué partout. Là, je vous ai montré la source parce que c'est là où je peux l'éditer. Mais c'est pas financé. Non. Du tout. Ouais, et c'est à Leipzig. Hein. Alors, j'ai essayé de me renseigner, parce que j'ai creusé plein de trucs, parce que chaque année, il y a des thématiques qui sont souvent liées à des pressions du gouvernement. Donc, comment faire en sorte que le thème de l'année représente les pressions qu'on ressent. C'est compliqué, ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Leipzig, il y a eu une saisie de disques hein, dans une association, une association qui était avec Indie Media. J'arrive pas à le prononcer. Indie Media, on dit, c'est comme ça? Ok, ça vous parle? Oui, c'est ça, c'est Indie Media. Ben, ils ont été saisis, parce que souvent, regardez, c'est comme ici. Imaginons, il y a une saisie de serveurs, il y a 50 associations dans la salle du haut, quoi. Donc, suite à ça, ils ont migré à Leipzig, et puis un petit peu comme les rencontres mondiales du logiciel libre, j'en fais la promotion aussi. Ben, le but de tourner de ville en ville, c'est pour que les collectivités mettent les doigts un petit peu dedans, s'y intéressent. Et après, Nantes, par exemple, sont très réactifs. Après, ça dépend des villes. Hein.
Comment ça se passe pour participer
en Angel en staff?
Non, pas en staff. Alors, la première question, c'est juste un serveur qui veut être visiteur.
Oui. Alors, tu prends tes pieds, ton sac à dos et tu y vas.
En visiteur, faut faire attention. Il faut demander de billet d'entrée.
C'est payant.
Fais attention parce que ça part très 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 vite.
Oui, si t'as pas ton billet, tu vas juste pas.
Si, en gros, à la sortie des billets, si dans les 3 heures tu n'as pas réussi à prendre ton billet, tu l'as raté.
Alors, je suis là pour tous ces off, comme dit Rognac. Les off. Oui. C'est à vous. Vous me donnez des sous?
Non plus.
Ah, c'est mon bail.
Non plus.
Donc les off.
Pour attirer les gens, il y en a qui s'amusent à ramener au CCC un sauna pour faire des pauses.
Jacuzzi. Ils sont bien les Allemands. Oui, les Allemands ils sont plus détendus que nous. À chaque fois que je quitte la France, je reviens. Ils nous critiquent l'envie, on est juste stressés. Ils sont détendus.
Tu rentres dedans.
Donc, pour répondre à ta question, et je suis là vraiment pour c'est vraiment important parce que déjà Hanovre, Berlin, c'est 8-18 heures de route, ça dépend où vous partez, c'est long, c'est loin. L'étape numéro 1, c'est réserver votre billet avant. Ça vaut plus. Ça, c'est pas les seuls problèmes. Deux, ben après, en nouveau trajet, ben, l'avion, le train, mais l'avion, c'est quand même le plus court. C'est en hiver, neige. Donc, si vous allez en voiture, ça peut être vite complexe. Ensuite, l'hébergement, il n'y a pas de souci. Et ensuite, si vraiment vous aviez un problème de billet, il reste quand même tous les workshops, toute la synergie. Et concrètement, ma vie, elle n'a pas démarré là. J'avais déjà d'autres activités avant dans le milieu du logiciel libre et du hacking, mais sur place, qu'est-ce qui se passe? Fatalement, les Espagnols vont se mettre avec les Espagnols, les Français avec les Français, tout le monde va finir par boire des bières, mais du coup, ça a fédéré des forces. Et c'est de là que, par exemple, on a créé un congrès de hacking en 2010, suite à ça, parce qu'on s'est retrouvés entre Français, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose chez nous. Ça ne bouge pas assez. Donc, ça, c'est des propulseurs indirects. Et puis on voit les fonctionnements aussi, on porte des bonnes idées. Par exemple, là-bas, ils mettent des pinces à linge pour avoir un truc de connexion. Il y a tout un tas de goodies qui sont effectivement vecteurs, pas pour nous, c'est notre métier, mais vecteurs auprès du plus grand public. On est des relais. Et la clé, j'ai envie de te dire, une fois que tu as le billet, tu as ton sac à dos, tu as ce qu'il faut. Et après, la deuxième clé, moi j'étais là surtout pour vous apporter cette clé, c'est-à-dire ça. Parce que vraiment, je ne sais pas si vous parlez allemand, mais... Quand tout est en allemand et qu'il y a 150 000 liens avec des GitHub, les Wiki, les Angels et le staff, et pas les photos et tout ça.
Il y en a combien qui sont en allemand et combien en anglais?
Le ratio, je te dirais, c'est un tiers en allemand, deux tiers en anglais. les salles sont souvent sous-titrées, c'est-à-dire que si tu peux regarder la conférence et tu as un casque où tu peux l'avoir en 2 ou 3 langues. Et ensuite, si tu le regardes sur ton laptop, sur les genoux, tu peux aussi parfois avoir le sous-titrage. Alors moi, je les mets depuis chez moi en sous-titrage sur plusieurs écrans. Comme ça, quand je fais des imprimés écrans, ben, j'ai le texte en dessous. Et ça, c'est bien quand il y a la slide et le texte. Ça. Après, il y a des résumés de conférences fournies par les intervenants. Mais parfois, il n'y a que des liens. Parfois, il n'y a rien. C'est des accords. Les lightning talks sont intéressants aussi. Parce que les lightning talks, dont je ne sais pas si on a. Au THSF, ça c'est bien d'en faire. Les lightning talks, c'est des gens, ils arrivent en bandana ou pas. Donc en mode black hat ou pas. Ils disent, je fais tel projet, j'ai besoin de compétences. Vous pouvez vous joindre. Ou alors, voici l'état de l'art où j'en suis, je suis bloqué, aidez-moi. Et ça dure 2 minutes.
Déjà, c'est
des universités. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est une question là que je pose, je ne sais pas si le PHSF fait ça. Et ça, c'est un tremplin émulsion, un peu comme je te disais. Nous, les Français là-bas, ben, quand on va là-bas, ça nous motive. Et si j'y reviens l'année prochaine, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, ça sera pour soutenir une communauté de nanosatellites open source, donc SatNobs. Ils sont souvent aussi au FOSDEM, donc c'est aussi un moyen de vous donner d'autres pistes. Si vous ne voulez pas aller au CCC, allez au FOSDEM chaque année, en janvier, à Bruxelles. Vous retrouverez à peu près les mêmes personnes. Il y a 8000 personnes, c'est plus près. Il y a autant de bières.
Le FOSDEM, comment dire, un rassemblement de développeurs avec beaucoup de devs, beaucoup de sujets très intéressants. En général, prévoir de la salle avec les conférences les plus intéressantes, sinon il y a une file d'attente assez monstrueuse.
C'est un survivant qui vous témoigne, et l'entrée est gratuite.
L'entrée est gratuite, si, et en même temps, Belgique, quoi, chocolat, bière, et surtout si on a un bout d'un moment, si on a la marre de parler en anglais, on peut parler en français.
Ouais, ça c'est cool. Ouais. J'avoue que le FOSDEM, c'est cool.
Personnellement, chaque année, si vous venez retrouver, vous me trouvez le samedi sur toutes les confs autour de BSD, clairement. Une communauté très friendly avec les gens. Et sinon, le mois prochain, il y a passage en scène.
Oui, en juin. Et bien alors, souvent quand je conclue, mais je voulais vraiment que vous posiez des questions, vraiment les billets, c'est tactique. Hein. Sans billets, c'est mort. Comment vous les regardez confortablement chez vous? C'est après Noël, il y a du chocolat, on peut survivre, il y a tout ce qu'il faut. C'est le paradis. Et comme tu disais, ben, en janvier, il y a le FOSDEM, il y a le FIC aussi, Forum International Cybersécu. Après, il y a sur Toulouse, le Toulouse Hacking Convention. Et en juin, passage en scène.
Quand vous pensez. Oui, je suis à dire le
FOSDEM
en janvier, c'est un
février. Ben, 1er février ou 30 janvier.
Non, c'est le 1er week-end février.
Ah, d'accord. Tu
veux.
Ça marche. Ok. Bon, voilà, je ne connais pas le calendrier, mais nous, il est calibré un petit peu comme ça. On enchaîne avec les rencontres de l'Abu Dhabi. Après, il y a LibreOffice, il y a plein de choses. Donc celui-là, je vais juste caler la page là, puisque c'est les thématiques d'introduction, je vous ai dit au début, qui nous animent tous sur le droit d'auteur, sur le RGPD, sur l'intelligence artificielle et voilà, protection du droit. Voilà. Tu es le prochain intervenant. Mais de toute façon, je vais libérer la salle, parce qu'il faut que je vous laisse, parce que vous avez peut-être d'autres choses à voir après. Et je ne comptais pas vous prendre plus de 30 minutes.
Encore 2-3 minutes, je sais pas, le conférencier suivant est là ou pas?
Dis-moi. Ah ben voilà, du coup je te laisse te connecter.
Ah,
j'ai rien à
dire.
D'accord.
Super, merci.
Merci.
Donc c'est là où je récupère.
Les 2600, c'est trop cool. J'en ai animé 3 ans des 2600. Merci. C'est très gentil. Je remercie Dan, partenaire officiel de cette conférence. Je remercie Yann, partenaire officiel pour le jury et le réseau.